bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Inès de Bruyne.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre série consacrée à l'économie de la construction s'achève aujourd'hui. Cette semaine, nous avons côtoyé marchands de sable et maçons et arpenté les chantiers afin de savoir si le bâtiment est toujours au cœur de la croissance de nos économies. À présent, c'est la crainte d'une nouvelle bulle immobilière que nous allons scruter à la loupe. Le prix moyen du mètre carré à Paris a dépassé cet été le seuil symbolique des 10 000 euros. Dans toutes les métropoles européennes, les prix augmentent, ravivant le spectre d'une nouvelle crise. Alors faut-il vraiment redouter cet emballement des prix ? Le scénario de 2008 pourrait-il se reproduire ? Et plus largement, comment comprendre que des bulles spéculatives se forment si fréquemment sur le marché de l'immobilier ? Voilà les grandes questions qui vont animer notre discussion. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des bulles immobilières en compagnie d'Ingrid Napi-Choulet, économiste titulaire de la chaire immobilier à l'ESSEC, professeure à l'École nationale des ponts et chaussées et auteur de cet ouvrage « Révolution de bureau » paru aux éditions PC. En compagnie également de Didier Cornuel, économiste, professeur émérite à l'Université de Lille et auteur de « Marché du logement et aide publique » paru chez l'Harmattan. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Didier Cornuel et Ingrid Napi-Choulet, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, les prix de l'immobilier continuent de monter dans les grandes métropoles françaises et européennes. Si on voit du côté de la France, à Paris, le prix du mètre carré moyen a donc dépassé les 10 000 euros. C'est 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Comment on peut expliquer une telle hausse, Didier Cornuel ?
D'abord, il faut constater que La hausse des prix s'est jouée entre le début des années 2000 et 2007. Depuis, on a eu le crack, on peut l'appeler comme ça, de 2008, mais les prix sont revenus à peu près au niveau du pic de 2007 et depuis, ils sont à peu près restés à ce niveau-là. Donc, pour moi, l'explication à rechercher, elle est à rechercher dans ce qui s'est passé entre 2000 et 2007.
En termes de vitesse d'augmentation actuelle de ces prix de l'immobilier, on est très loin tout de même de l'envolée du début des années 2010 lorsque l'immobilier parisien avait bondi de 40% en 2 ans, Ingrid Napi-Choulet.
Je pense qu'en fait, oui, on parle là des prix des logements libres. Donc ce sont des logements qui sont demandés à la fois par des ménages, mais également, enfin là on est dans l'ancien, mais également par toute une série de nouveaux acteurs qui sont ce qu'on appelle des fonds d'investissement, qui sont des investisseurs et qui également s'intéressent au logement. Donc on pourra peut-être parler de la question Airbnb. Enfin, il y a beaucoup de phénomènes aujourd'hui, et notamment les taux d'intérêt qui expliquent un engouement pour l'immobilier, donc une très forte demande d'actifs. C'est très important cette notion d'actifs financiers, même si c'est pour occupation propre ou pour un investissement locatif. On demande des immeubles, des biens, pour propre occupation ou pour les louer, et cette demande dans un contexte de taux d'intérêt très bas, eh bien, en fait, fait tout simplement mécaniquement monter les prix, les valeurs des immeubles.
Peut-être qu'il faut faire deux différences ici, d'un côté entre le prix du foncier et le prix du bâti, et de l'autre entre le prix des logements et les loyers, Ingrid oui. Napi-Choulet.
Oui, alors là, quand vous citez les notaires, il s'agit des logements anciens. Donc on n'est pas sur le logement neuf, donc en aucune façon on peut parler du foncier. Donc là on est purement sur un marché secondaire de rachat, d'offres et de demandes de biens déjà construits dans l'ancien. Donc c'est vraiment alimenté par des comportements de demande qui sont eux-mêmes dépendants de facteurs financiers, notamment des taux d'emprunt des ménages, mais également des taux d'emprunt pour des autres investisseurs qui également aussi font fonctionner ce qu'on appelle l'effet de levier financier. Vous savez, quand les taux d'intérêt sont très bas, eh bien on fait un effet multiplicateur sur la rentabilité.
Et alors peut-être que pour bien comprendre ce marché spécifique de l'immobilier, il faut expliquer qu'il est constitué de deux marchés. Il y a d'un côté les prix des logements et les prix des loyers. En l'occurrence,
là on parle des prix.
Les prix des logements augmentent beaucoup plus vite que les loyers dans les grandes métropoles en l'occurrence.
Oui, parce que tantôt ils sont réglementés et parce qu'ils obéissent à d'autres mécanismes. Et c'est justement cette déconnexion souvent entre le loyer et la valeur vénale des logements, donc les prix, qui laisse supposer qu'il y a d'autres mécanismes parfois spéculatifs.
Alors, ça fait déjà un certain temps que la hausse des prix de l'immobilier inquiète depuis 2008 et que l'existence d'une bulle immobilière fait débat, Didier Cornuel. C'est un débat qui revient très régulièrement.
Oui, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle bulle. Bulle, c'est un terme qui est employé de manière un peu extensive et, à mon point de vue, un peu trop extensive. C'est-à-dire, au sens strict du terme, c'est un mouvement purement spéculatif, sans autre facteur à l'origine. Or, et Ingrid Napi-Ljoulé l'a bien rappelé, les facteurs financiers sont des éléments déterminants de ce qui s'est passé depuis le début des années 2000, où on a commencé par on a eu ce qu'on peut appeler, du point de vue économique, un choc de crédit, tout simplement. Les banques se sont mises à prêter, en l'espace de quelques années, deux fois plus d'argent aux acquéreurs. Donc les acquéreurs, ils se présentent sur le marché avec une capacité de paiement doublée face à un stock qui, pour l'essentiel, est un stock de logements existants et donc
qui se renouvelle lentement par définition.
Qui se renouvelle très très lentement et qui est pour une bonne partie. Enfin, l'espérance de vie d'un logement en France c'est 120 ans. Hein, donc effectivement, le renouvellement est assez lent et donc le choc de crédit a conduit à une solvabilisation accrue et donc à une augmentation des prix. Et c'est là qu'on voit bien la différence avec l'évolution des loyers. L'évolution des loyers elle est complètement plate. Et le fait marquant des 20 dernières années, d'une certaine manière, c'est la distorsion entre les prix et les loyers. Et chez les économistes, il y a effectivement un mécanisme bien connu, qui est le mécanisme de la capitalisation des revenus, qui détermine le prix des actifs. Et dans ce mécanisme, il y a l'élément clé qui est le taux de capitalisation.
Alors, il faut que vous nous expliquiez ça.
Alors, capitalisation des revenus, pour dire les choses simplement, ça veut dire que le prix d'un actif, comme l'immobilier, mais c'est vrai aussi pour les actifs financiers, c'est son revenu divisé par un taux de rendement. C'est le revenu et le taux de rendement qui déterminent le prix d'un actif. Ça va peut-être à rebours de ce que pense le grand public, puisque effectivement, on commence par acheter un bien et puis ensuite seulement on loue et on cherche à en obtenir un certain taux de rendement éventuellement. Mais le fait est que le marché directeur, c'est bien le marché locatif, puisque si les locataires ne sont pas disposés à payer le loyer demandé par le bailleur, il faudra bien qu'ils révisent à la hausse ou à la baisse ou éventuellement à la hausse.
Ingrid Napi-Ljoulé.
Alors moi je suis pas tout à fait d'accord. En effet, la valeur d'un immeuble, c'est tout à fait depuis ce qu'on appelle la financiarisation du secteur qui a eu lieu il y a 20 ans. On est en effet sur un mécanisme de capitalisation, c'est-à-dire on va diviser tout simplement le revenu locatif net par un taux d'intérêt attendu. C'est ce qu'on appelle un taux de capitalisation, mais c'est surtout un taux de rendement. Un taux de rendement locatif. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les yields dans le langage courant. Ce rendement, il est en baisse constante par un mécanisme tout simple, qui est bien sûr les taux d'intérêt baissent à court terme, ceux des banques centrales. Mais surtout, c'est qu'il y a une telle demande, une telle pression pour des immeubles, par des grands investisseurs, que ce taux baisse mécaniquement. Et qu'automatiquement, la valeur monte. Et pourquoi y a-t-il une pression aussi importante? C'est qu'on n'a jamais vu dans nos économies industrialisées autant une croissance du taux d'épargne des ménages, de précaution. Les ménages épargnent énormément. Les institutionnels, compagnies d'assurance, caisses de retraite, mais tous ceux qui gravitent autour ont énormément de liquidités à placer. Les marchés financiers sont incertains. Les bons du trésor baissent. Et donc, tout le monde se rue sur les marchés immobiliers, bureaux, mais aussi logements.
Alors on va revenir sur toutes ces questions qui sont passionnantes mais qui sont assez complexes et on va voir que la pression sur Paris notamment ne date pas d'hier. Je vous propose d'écouter Michel Dornano qui est l'ancien ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie. C'était en 1980.
À partir du moment où on a décidé de ne plus faire de tours, et je crois qu'on a raison, à partir de ce moment-là, forcément on peut construire moins de logements. Il y a un autre problème à Paris, c'est que tout ce qu'on a construit comme logement depuis tant d'années ne s'est pas traduit par un logement supplémentaire, parce qu'on a beaucoup transformé en bureaux. Mais je dois vous dire que les prix que l'on me donne, c'est-à-dire les prix des transactions que j'ai dans mes chiffres, ne correspondent pas du tout aux prix que j'entends annoncer par des promoteurs et par certains marchands de biens. Et ça dépend d'ailleurs complètement des quartiers. Alors, à Paris, il y a dans Paris même plus d'emplois que de travailleurs. Il y a par conséquent une pression qui est plus forte. Il faut donc continuer le desserrement vers la petite et la grande couronne parisienne où il y a là un déficit d'emplois. Et peut-être faudrait-il aussi examiner s'il ne faudra pas, par la suite, retransformer un certain nombre de bureaux en logements.
La spéculation et la pression sur les logements parisiens étaient déjà très fortes dans les années 80, Ingrid Napi-Choulet.
Là, on parle des années 80. Les années 80, oui, c'est la période d'une bulle spéculative qui gonfle, surtout entre 85 et 91. Or, c'est passionnant cette période-là parce que c'est la première fois qu'on a réellement une bulle spéculative sur les marchés immobiliers et que les économistes se posent la question, y a-t-il bulle spéculative ou y a-t-il un retournement de cycle classique ? Pour moi, pour revenir sur la question, une bulle spéculative, elle est vraiment alimentée par de la spéculation. La spéculation chez un investisseur, c'est quoi ? Que ce soit un ménage ou un institutionnel ou autre, c'est de se dire, est-ce que je raisonne à long terme ou est-ce que je raisonne à court terme ? Le raisonnement à court terme fait que vous allez raisonner sur ce qu'on appelle un rendement capital, la plus-value justement. C'est ce qu'il recherche. Et puis vous avez d'autres investisseurs qui vont avoir différents types de profils. Donc en fonction du poids des investisseurs et de leur profil, on va avoir tantôt des marchés qui sont plutôt spéculatifs, d'autres qui sont plutôt stables.
Et en l'occurrence, le marché de l'immobilier est un marché spéculatif parce qu'il ne suit pas les mécanismes d'offre et de demande classiques.
Voilà, on est sur un marché complètement atypique. C'est bien pour ça qu'il est très peu étudié par les économistes en général. C'est qu'on a justement des marchés complètement atypiques. On a des biens d'abord qui sont par nature hétérogènes. Un immeuble, du numéro pair au numéro impair, ça peut être complètement différent. La valeur peut changer pour beaucoup de raisons. On a également un marché très opaque, très peu de données. Et quand il y a des données, elles ne sont pas disponibles gratuitement. On a plein d'autres facteurs qui, dans l'économie, disent que ce ne sont pas des marchés classiques.
Il est extrêmement difficile d'évaluer la valeur d'un bien immobilier. Didier Cornuel, il y a toute une série de critères très subjectifs, très simplement.
La valeur d'un bien immobilier existant, c'est le prix le plus élevé qu'un acquéreur accepte de payer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de...
Mais de savoir si le prix correspond à sa valeur intrinsèque, c'est là toute la question.
Ça n'existe pas de valeur intrinsèque. Et de fait, c'est bien ce qui, dans l'évolution qu'on a constatée, c'est bien cette capacité à payer supplémentaire qui a permis que les prix augmentent. Le vendeur, lui, il essaye toujours de vendre le plus cher possible. Mais donc c'est pas lui qui détermine le prix.
Et en l'occurrence, est-ce que la spéculation à laquelle on assiste aujourd'hui est liée au fait qu'il y a une multiplication d'achats par des acheteurs étrangers, aussi le fait qu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui vont arriver ? Ingrid,
en tout cas, si vous parlez Paris, en effet, Paris est une ville monde. Il y en a deux en Europe. Londres et Paris, et qui depuis le début se font une compétition, sont en compétition l'une et l'autre pour attirer, et donc les prix pour attirer les investisseurs internationaux. Donc ce fait d'être une ville-monde fait que les acteurs de l'immobilier sont internationaux. Ça peut être des family office, donc des gestionnaires de fonds privés, ça peut être des institutionnels. On est sur un monopoly géant, où je vous disais, le fait de l'accroissement de l'épargne dans le monde, il faut bien le placer. Cette épargne. Donc la pierre est une valeur refuge classique, même si on ne place pas beaucoup dans la pierre, étant donné volume énorme à placer, eh bien forcément il y a une demande d'immeubles. Et cette demande d'immeubles fait une pression sur les prix.
Alors pour savoir si on assiste véritablement à la formation d'une bulle immobilière en France, il faut s'arrêter sur le cas irlandais et rappeler d'abord que dans les années 2000, la croissance du tigre celtique était citée en exemple.
On dit que l'Irlande, c'est l'île des saints et des savants. Et les saints, je suppose, produisent des miracles. Et maintenant, on parle énormément de ce miracle économique en Irlande. Si vous regardez un peu les chiffres économiques, ils annoncent que nous avons le taux de croissance économique le plus élevé en Europe et aussi dans l'OCDE. Et ça depuis 6 ans. Par exemple, l'année dernière, on annonce que la croissance économique était entre 7 et 10 %. Le taux d'inflation à 1,4 % est très bas. Et nous avons une balance des paiements excédentaire de 7 à 8 % de notre produit national brut. Voilà des chiffres qui annoncent les miracles irlandais. On parle même du tigre celtique.
Voilà le professeur Antoine Murphy chez nos confrères de France Inter le 29 juin 1996. Un miracle économique qui va être suivi d'un effondrement tout aussi brutal, Didier Cornuel. Et peut-être que c'est lié justement au fait que à partir du milieu des années 80, il y a eu une suppression des freins à la distribution de crédit, comme vous commenciez à le dire. On a commencé à prêter de plus en plus facilement.
Les banques, au début, à la fin des années 90, se sont trouvées dans une situation où les taux d'intérêt ont baissé de manière assez drastique. Donc, c'est leur revenu, les taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait ce que fait classiquement un producteur pour se rattraper. Il augmente sa production, comme les producteurs de lait, quand le prix du lait baisse, ils augmentent la production de lait. Là, les banques se sont mises simplement à octroyer davantage de crédits, plutôt pas davantage de crédits, mais des montants supérieurs aux mêmes personnes. Alors ça, c'est le cas français. Aux États-Unis, où on prêtait déjà, et je pense en Irlande, ça devait être un peu la même chose, mais aux États-Unis, où on prêtait déjà un peu à tout le monde, pour gagner des nouveaux, augmenter la masse de crédits, il a fallu se tourner vers des populations plus modestes. Et ça a été les subprimes. Donc en France, on est resté sur une population d'acquéreurs relativement aisés, qui sont relativement peu nombreux, et ils ont été simplement, leur solvabilisation a été doublée. Et les banques maintenant sont prises un peu à ce piège de la décroissance des taux, parce que elles sont étranglées d'une certaine manière.
D'où le fait qu'on puisse aujourd'hui éventuellement s'inquiéter d'un renouvellement, d'un retour de cette crise, Ingrid Napichouet.
Alors c'est vrai que l'impact des taux d'intérêt est capital. Si on revient sur la crise des subprimes, qui va entraîner la crise en Irlande aussi, en répercussion.
Et en Espagne.
Évidemment, sur tous ces marchés très spéculatifs à la base. Simplement, la Banque centrale des États-Unis, ce qu'on appelle la Fed, elle baisse ses taux brutalement des taux d'intérêt de 6,5% en 2002 à 1% en 2004. Et ça engendre un boom immobilier avec une hausse des valeurs.
Alors, c'est le péché originel de la crise pour vous.
Exactement. Et brutalement, fin 2005, la Fed, augmente de 1% à 5,25% avec l'idée de lutter contre un risque inflationniste. Là, aujourd'hui, on est au très bas. Et cette augmentation brutale des taux d'intérêt de 1 à 5,25 en 2005 va engendrer la crise des subprimes. Pourquoi? Parce que les prix vont chuter. Or, les prêts étaient prêtés sur la base des sous-jacents, la valeur des immeubles. La valeur des immeubles baissant, les gens ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Donc, on voit bien que le risque aujourd'hui, c'est si les taux montent. Mais la question, c'est vont-ils monter? Mais si les taux montent, là, ça va être terrible.
Alors on va y revenir, parce que si on en croit les annonces de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui s'exprimait tout à l'heure lors d'une conférence de presse, les taux ne sont pas prêts de monter. On va y revenir, mais encore un mot sur cette idée d'un accès facilité au crédit. Aujourd'hui, l'inquiétude porte sur le niveau d'entêtement croissant des Français. Je vous propose d'écouter la sociologue Jeanne Lazarus. Elle était l'invitée d'Entendez-vous l'écho le 12 septembre 2018.
Quand on regarde les chiffres sur qui s'endette en France, on voit très nettement que les trois premiers déciles, donc les 30% de la population les plus pauvres, ont très peu accès au crédit. Donc c'est vraiment, et si on se limite au crédit immobilier, c'est encore plus resserré. C'est vraiment la partie la plus riche de la population qui peut y accéder. Et c'est un mouvement qui ne cesse de s'amplifier sur le crédit immobilier. C'est très très net. À la fois les montants empruntés explosent, avec le prix du logement qui augmente, mais la part de la population qui peut accéder au crédit diminue.
Les montants empruntés sont donc de plus en plus importants, mais en France, contrairement aux États-Unis avant la crise des subprimes, les plus pauvres n'ont pas accès au crédit. C'est l'une des différences entre la France et les États-Unis, Didier Cornuel.
Oui, il y a une différence qui est plus fondamentale, qui est une différence structurelle auquel Napi a fait allusion à l'instant. C'est le fait que aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons de manière générale, on prête pour un investissement, pour quelque chose. Et c'est ce quelque chose, en l'occurrence les biens immobiliers, qui est la garantie finale. C'est le mortgage. Hein. Donc ce mot-là à la bouche, les anglo-saxons. C'est l'hypothèque, oui, en français. Le mortgage étant d'ailleurs un mot français, puisque c'est mortgage en français. Ça vient du Moyen-Âge. Tandis qu'en France, on prête à quelqu'un. Donc les banques sont très soucieuses de la solvabilité de leurs clients, parce que c'est des clients qu'elles vont essayer de d'attirer par les crédits immobiliers et qu'elles vont essayer de garder pour leur vendre après d'autres produits. Donc on a un positionnement différent du système bancaire français et latin, entre guillemets, et du système bancaire anglo-saxon en termes de distribution et de conception même des crédits.
Et aujourd'hui, on a 6 Français sur 10 qui sont propriétaires de leur logement, ce qui est inférieur à la moyenne européenne. Comment est-ce qu'on peut mettre en lien cette donnée, Ingrid Napi-Choulet, avec la situation actuelle ?
Le fait qu'en France, on ait un taux de propriétaires occupants de 60%, c'est ça ?
Oui.
Alors, en général, on oppose les pays d'Europe du Nord avec les pays d'Europe du Sud, et la France est en juste milieu, avec un comportement plutôt latin, patrimonial, valeur de refus. Voilà, on se doit d'avoir un logement, comme en Espagne, comme dans les pays latins. Voilà, ça reflète un peu votre niveau de vie, en fait. Alors que dans les pays anglo-saxons, mais surtout scandinaves, voire y compris l'Allemagne, on a un marché locatif privé beaucoup plus important, et donc c'est très facile de trouver un logement, donc on n'a pas besoin d'être propriétaire.
Alors qu'il y a un enjeu peut-être en France, ce que l'on entend parfois, c'est que 80% des Français voudraient être propriétaires, alors que voilà, en l'occurrence, il ne serait que 60%. Il y a cet enjeu-là aussi de reconnaissance sociale, peut-être, Ingrid Napi-Choulet.
Je ne sais pas si on peut dire ça ainsi. Enfin, c'est vrai que non, j'ai pas de questions.
Didier Cornu.
Ce que je crois, c'est qu'il y a quelque part une espèce d'étiage dans le pourcentage de propriétaires occupants possible dans un pays. Et ce qu'on voit, c'est que quand les pays dépassent cet étiage, tôt ou tard, ils sont ramenés. Et c'est ça a été le cas des États-Unis, où il faut se rappeler qu'au plus fort de la flambée des subprimes, il y avait 70% des ménages qui étaient propriétaires, et 70% de ces 70% étaient accédant à la propriété. 70% de 70%, ça fait 49%, c'est-à-dire un ménage sur deux était endetté pour le logement. On a cité l'Irlande, moi j'aime bien citer l'Islande, qui est un pays encore plus effarant de ce point de vue-là, c'est qu'au moment de la crise, 70% des ménages étaient endettés pour accéder à un logement. C'est des situations qui me paraissent totalement inconcevables et pas tenables, pas durables. Donc fatalement, à un moment ou à un autre, dès qu'il y a la moindre petite difficulté...
Et si on en vient au cas de la France, vous diriez que le niveau d'endettement actuel, l'endettement des ménages pour des crédits immobiliers, n'est pas soutenable et trop important.
Non. Pour la France, est de ce point de vue-là, très raisonnable. Très raisonnable. Et je suis très surpris de voir que les anglo-saxons veulent à tout prix que le modèle anglo-saxon s'impose en France. Ceci dit, dans les dernières évolutions, ce que je constate, c'est que, et ce que j'entends dire, en tout cas plutôt que je constate, parce que les statistiques sont muettes sur ce sujet, c'est que les banques commencent à prêter à des ménages plus modestes pour renouveler un peu leur public.
Ingrid Napi-Choulet.
Il faut voir aussi que, notamment pour les pays anglo-saxons et le modèle américain, l'idée c'était d'encourager par des mesures de défiscalisation, des mesures fiscales, la propriété et notamment, en fait, indirectement, la construction. On n'a pas abordé ce sujet, mais il est très important. Il faut savoir que le bâtiment, vous l'avez abordé certainement dans d'autres émissions, c'est un secteur clé dans l'économie. Quand le bâtiment va, tout va. Quand le BTP va,
effectivement, qu'on
tout
s'est
va.
Posé hier.
Donc aujourd'hui, il est clair qu'il faut... Et puis il faut aussi non seulement construire, mais de plus en plus, c'est rénover. Attention, la moitié du chiffre d'affaires, c'est de la rénovation. Mmh. Mais ce sont des travaux. Et donc c'est un secteur qui, rien que le bâtiment, c'est 7% du PIB. Si vous rajoutez ça avec en plus la dimension, c'est 8% de l'emploi, c'est gigantesque. Donc on comprend bien des enjeux d'économie qui sont de relancer le bâtiment, voire même au-delà du bâtiment, ce qu'on appelle les activités immobilières. La transaction, la promotion, le conseil. Et on peut avoir, et à l'époque aux États-Unis, la construction c'était 22% en Californie. Pas 6%, c'était 22%. De l'activité, du PIB.
Ce sont des activités qui tirent derrière elles toute l'économie, Didier Cornuel, d'où la volonté de l'État de les favoriser.
J'ai peur de tordre le cou à un mythe qui est effectivement ce mythe de l'effet multiplicateur de la construction sur l'activité économique.
Un mythe qui nous vient de Keynes, comme on l'a vu hier.
Alors, encore une fois, il faut être précis. Ce qui n'est pas très multiplicateur, c'est la construction de logements neufs. Pourquoi ? Parce que en l'espace de 20 ans, pour obtenir la même production, il faut mettre deux fois plus d'argent. Donc ça veut dire que le rendement de la dépense en logement neuf a diminué de moitié. Et une partie de cet argent qu'on met dans le logement neuf, il va dans le foncier. Et le foncier, il n'est générateur d'aucune valeur ajoutée. Il peut générer des plus-values, mais une plus-value, c'est pas une valeur ajoutée. Ça ne s'inscrit pas dans le produit intérieur brut. Et après, l'effet multiplicateur proprement dit vient de l'activité de la branche construction proprement dite. Et d'après mes calculs, c'est une branche qui se situe au 12e rang sur les 17 branches de l'économie française par son effet multiplicatif, loin derrière les branches tertiaires. Et devant les branches industrielles, ce qui est parfaitement logique eu égard à la manière dont se...
Oui, mais avec un poids très important quand même dans le PIB.
Oui, mais...
Indépendamment de l'effet multiplicateur.
Et la construction, là aussi, il y a le logement, mais il n'y a pas que le logement neuf.
Il y a les
travaux qui représentent autant que le logement neuf, comme le signalait Ingrid tout à l'heure. Mais il y a aussi la construction de non-résidentiel et puis les travaux publics, parce que maintenant, c'est plus qu'une seule branche dans la comptabilité nationale.
Alors, ce qui nous amène à cette question qu'on va aborder un peu plus tard sur l'existence réelle ou non de ces fameuses bulles immobilières. Est-ce que le marché du logement, finalement, ne dépendrait pas de simples cycles économiques, on va en parler dans un instant. Écoutez, I Build This Garden For Us de Lenny Kravitz sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Les économistes Didier Cornuel et Ingrid Napi-Choulet sont toujours avec nous pour parler de la crainte d'une nouvelle bulle immobilière.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Nous allons revenir sur ce moment qui constitue le moment de la financiarisation de l'immobilier. Ingrid Napi-Choulet, dans les années 90, vous diriez que c'est le moment véritablement où le logement est devenu un bien propice à la spéculation?
Alors, oui, c'est le moment, mais c'est pas pour le logement. Le logement, c'est plus tard. C'est plus récemment, en fait, même. Tout à fait. Alors, pourquoi on parle de financiarisation? Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord, financiarisation? Ça veut dire qu'en fait, notamment en France, dans les pays... d'Europe continentale, donc pas sur le modèle anglo-saxon, on va passer soudainement d'une gestion patrimoniale de l'immobilier à une gestion financière. Ça veut dire quoi? Gestion patrimoniale, on détient de l'immobilier à long terme. Pensez aux immeubles haussmanniens, qui étaient détenus historiquement par des grandes compagnies d'investissement immobilier locatif, ou par des grands investisseurs sur des décennies, voire même un siècle.
Avec donc, la financiarisation, on passe au court
terme. C'est l'inverse. On passe sur un modèle purement anglo-saxon où la valeur, elle est financière. C'est-à-dire que la valeur d'un immeuble, c'est exactement, on a commencé l'émission ainsi, en disant c'est le rapport du loyer sur un taux d'intérêt. S'il n'y a pas de loyer, la valeur c'est zéro, mécaniquement. Si même on a des charges plus que des loyers, donc des revenus nets négatifs, puisqu'on paye plus de charges que de revenus, on a une valeur négative. Et donc c'est vraiment un changement de paradigme qui a lieu quand? En 97, 91, c'est la crise du Golfe, la bulle explose. On dépasse à l'époque la barre des 150 000 francs le mètre carré, donc en gros plus de 20 000 euros.
À Paris ?
À Paris, simplement sur un choc géopolitique. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et du jour au lendemain, c'est là, on s'aperçoit que les prix ont été multipliés par 4 en un été. C'est ça la spéculation. Et du coup, tout s'effondre, on va mettre du temps à résorber, un peu comme la crise des subprimes, et arrivent des nouveaux entrants sur le marché en 97, c'est pour ça qu'on parle de financiarisation en 97, ce sont les fonds d'investissement dits opportunistes, anglo-saxons, qui viennent de New York et qui achètent de New York, sur la base de méthodes financières de cash flow, de tableur Excel, des immeubles avec des décotes de 60 à 80%.
Et à ce moment-là, ce sont davantage des immeubles de bureaux, ce sera plus tard les logements.
Parce que la crise, elle est d'abord une crise de bureaux. Et c'est l'actif essentiel. Et les logements, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment les logements, parce que les logements deviennent une classe d'actifs à part entière, nouvelle pour les investisseurs. Ce qui avait été le cas il y a plus d'un siècle.
Et donc c'est véritablement lié à ce mouvement de mondialisation des capitaux et des investisseurs.
Je pense, oui.
Alors sur ce point, Didier Cornuel, j'aimerais avoir votre avis, puisque vous préférez, vous plutôt que de parler de bulles spéculatives, vous préférez parler de cycles économiques. Alors à quoi correspondent selon vous les cycles de l'immobilier? Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, cycles de l'immobilier, c'est des cycles comme des cycles macroéconomiques classiques qui se reproduisent de manière régulière et qui se caractérisent par une phase d'expansion, un pic qui est un point de retournement et puis une phase de déclin qui est alors plus ou moins ralenti par des interventions publiques. Et en réalité, pour moi, le cycle, la situation dans laquelle on se trouve présentement en 2019, c'est la gestion de la sortie d'un cycle qui a commencé au début des années 2000. Donc, ce sont les pouvoirs publics, en l'occurrence les autorités monétaires, ça a été vrai de la Federal Reserve Bank, mais ça a été vrai de la BCE qui a commencé à remonter ses taux à partir de 2005, 2006, 2007 jusqu'au crack de 2008. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Devant cet effondrement et la crise financière qui a suivi, on a réalimenté le système, c'est-à-dire qu'on a reproduit, on a réintroduit les facteurs qui avaient conduit à la crise et donc qui ont maintenu et l'activité de production des logements et le niveau des prix.
Aujourd'hui, les crédits immobiliers sont 5 fois moins élevés qu'au début des années 2000. Les taux 1,2% les taux effectivement 1,2% sur 20 ans en moyenne. Qu'est-ce que vous pensez de ces taux particulièrement bas, Ingrid Napi-Choulet? Dire que Mario Draghi, le président de la BCE, a annoncé qu'il ne relèverait toujours pas les taux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce sont des taux de court terme. Ils se comprennent par rapport au niveau de l'inflation. Il n'y a pas d'inflation, donc il n'y a pas de raison de monter les taux d'intérêt à court terme. Alors, la banque monte les taux quand il y a généralement un risque inflationniste.
C'est ce que la BCE a dit, effectivement, que tant que les taux, que l'inflation n'approcherait pas d'un niveau à 2%, qui serait inférieur à 2%, mais qui serait proche de 2%, ces taux ne seraient pas relevés, Didier Cornuel.
Oui, effectivement. Moi, ce qui me laisse perplexe, c'est la dynamique dans laquelle on s'inscrit avec cette baisse des taux. Parce que on est à des taux qui sont proches de zéro et on voit maintenant que dans certains pays, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas aussi du Danemark, non seulement les dépôts sont servis, si on peut dire, avec des taux négatifs, mais les prêts immobiliers eux-mêmes sont... Mais c'est une dynamique de taux négatifs qu'on a... De ma culture d'économiste, je n'ai jamais vu ça et je ne pense pas que ça se soit jamais produit dans la réalité économique. Donc ce système-là,
aux États-Unis justement en 2005.
Pas en nominal, en taux réel peut-être, oui. Mais pas en taux nominal. Or le taux nominal, c'est quand même le rapport au futur.
Alors expliquez-nous la différence entre taux nominal et taux réel.
Taux nominal, c'est vous empruntez à 5%, l'inflation est à 3%, votre taux réel c'est 5 moins 3, c'est 2%. Donc on a connu des situations où les taux étaient à deux chiffres, mais l'inflation était également à deux chiffres et on a pu avoir une situation où les taux réels étaient négatifs alors même que les taux nominaux étaient très élevés. Mais globalement, ça n'est pas une situation durable. Les taux sont normalement positifs parce que ça exprime le fait qu'on attend plus de l'argent dans le futur que ce qu'on a maintenant. Là, on est en train de s'inscrire dans une dynamique inverse, dans une perception inverse, c'est-à-dire où on préfère le passé plutôt que le présent, parce que dans le passé, on avait plus.
Donc pour vous, il faudrait remonter les taux. Alors est-ce que l'économie européenne pourrait supporter une remontée des taux dans un contexte de ralentissement mondial?
C'est la contradiction dans laquelle sont placées toutes les banques centrales. Elles voudraient bien remonter les taux, mais elles ne peuvent pas.
Oui, et puis ça serait aussi très problématique sur notamment l'endettement de la France, des États.
Le poids de la dette serait largement alourdi par une remontée des taux.
Exactement, et sur notamment la baisse de la valorisation des actifs immobiliers, puisqu'on l'a bien vu, c'est mécanique. Une augmentation des taux d'intérêt va entraîner une baisse des prix immobiliers. Or, beaucoup d'institutionnels, ils sont quand même très importants, ces acteurs économiques, ont investi, de l'épargne d'assurance vie, etc., sur des immeubles dont la valeur diminuerait avec un effet multiplicateur.
Mais donc la situation est complètement bloquée, on ne peut pas baisser davantage les taux directeurs, mais on ne peut pas non plus les augmenter, Didier Cornuel.
Oui, non, mais je pense qu'il faudra bien qu'on revienne à une baisse des prix des actifs immobiliers, comme d'ailleurs des actifs financiers. Immobiliers... C'est moins grave, à mon point de vue. Le problème, c'est plutôt pour les actifs financiers, parce que c'est les cours des actions, et donc c'est la capacité de financement de l'économie, de l'économie productive qui est en question. Je ne vois pas surtout dans quelle dynamique on s'inscrit avec des taux qui sont de plus en plus bas et de plus en plus négatifs.
Alors, ces cycles dont vous parlez sont peut-être à mettre en lien avec les cycles du crédit, théorisés par l'économiste américain Ayman Minsky. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Didier Cornuel, c'est-à-dire la capacité, l'enthousiasme qui peut apparaître au moment où précisément les taux sont extrêmement bas et donc il y a une forme de folie autour de la spéculation immobilière qui entraîne ainsi des cycles.
Je crois que les cycles sont très largement, les cycles du crédit sont très largement contrôlés par les autorités monétaires. Donc pratiquement, c'est vrai qu'il y a de l'abondance de liquidités qui résulte notamment des déséquilibres économiques, les déséquilibres commerciaux, les déséquilibres budgétaires, ça génère des capacités de financement. Donc les objets dans lesquels on peut investir sont finalement somme toute à plus limités. Donc du coup, ça va augmenter le prix des actifs. Mais globalement, c'est quand même les autorités monétaires, c'est leur responsabilité qui doivent gérer cette fluctuation des taux et s'assurer d'un lissage de l'activité économique au cours du temps, donc de baisser les taux quand on a fait une période de ralentissement et de les augmenter quand on a une période d'échauffement avec des tensions inflationnistes éventuellement. Mais ce que je vois, c'est que cette baisse de taux, elle est actuellement difficilement justifiable, en fait.
La puissance publique a véritablement un rôle à jouer, Ingrid Napi-Choulet, vis-à-vis de ces cycles que l'on vient d'expliquer.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par la puissance publique?
Alors, ça peut être l'État, ça peut être la BCE, en l'occurrence les autorités
monétaires. Oui, on le voit bien, ça c'est clair, c'est incontestable. Et on a déjà des expériences passées, notamment aux États-Unis, pardon. On voit bien que, tout simplement, la politique monétaire joue mécaniquement sur la valeur des actifs, qu'ils soient financiers ou ce qu'on appelle des actifs réels, comme l'immobilier.
Et cette politique monétaire peut passer par une baisse des taux, ça peut aussi passer par ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire...
C'est ça, c'est donc la baisse des taux.
Le rachat d'actifs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme, Ingrid Napi-Choulet?
Tout simplement, on injecte davantage de liquidités dans l'économie en baissant les taux.
Et la BCE qui a décidé effectivement de continuer cette politique là où on aurait pu imaginer qu'elle allait l'arrêter. On pensait en tout cas qu'elle allait l'arrêter.
Oui, c'est ce qu'on disait.
C'était pas tout à fait dans sa vocation de racheter des créances, notamment derrière. Alors, elle ne doit pas racheter normalement de créances publiques pour ne pas financer les déficits, mais de fait, quand vous rachetez des créances, quelles qu'elles soient, l'argent ne file partout, donc finalement, ça revient à peu près au même, et on rachète aussi des créances privées, et donc ça gonfle les capacités d'endettement des banques, mais sur des... Alors, on a les volumes, et on a des taux qui sont pas tenable de mon point de vue.
Ingrid Napi-Choulet.
Oui, je voudrais juste préciser qu'on parle toujours depuis le début de l'émission des logements ancien là, on parlait des prix, l'augmentation des prix du logement ancien. C'est pas forcément les prix, des logements neufs qu'on va trouver à Clermont-Ferrand. On est bien d'accord là. Hein. On a parlé d'une information qui est sortie récemment, c'est l'augmentation de la barre.
On parle des grandes métropoles et notamment
grandes métropoles. Voilà. On va pas parler de la crise. On parle pas là du besoin de loger, notamment ce qu'on appelle, on l'a eu tout à l'heure dans l'émission là, ce qu'on appelle les key workers, c'est-à-dire des personnes au pouvoir d'achat qui ne peuvent pas se permettre de se loger dans Paris, où il n'y a pas non plus d'offres locatives. On a parlé tout à l'heure dans l'interview, vous aviez, on a eu une personne qui a parlé. Là, c'est aussi un autre sujet. Donc là, on a besoin des pouvoirs publics pour lancer l'offre locative.
Et alors, contre peut-être cette idée de bulle spéculative, Didier Cornuel, on peut citer l'exemple de l'Espagne, où les prix de l'immobilier ont bondi ces dernières années. Et on a pu entendre aussi en Espagne qu'il y avait le retour d'une bulle spéculative comme celle que l'Espagne a pu connaître en 2008.
Alors, ce que l'Espagne a connu en 2008, c'est un phénomène assez particulier. Parce que l'explosion de l'offre s'est faite au niveau de l'offre de logements neufs. Et ils sont arrivés à des niveaux de production où l'Espagne arrivait à produire en une année ce que produisait le reste de l'Europe pendant la même période. Et donc, au moment de la crise de 2008, il y avait 1 million de logements neufs vacants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. À l'heure actuelle, où le stock de logements neufs à vendre est assez élevé, on est à 100 000 pour l'ensemble de la France. Donc, ils étaient déjà 10 fois plus. Et ces logements vacants, une bonne partie, pour autant que je sache, sont toujours vacants. C'est-à-dire qu'on a des quartiers fantômes, sinon des villes fantômes de logements neufs qui n'ont pas trouvé preneur.
Alors donc aujourd'hui, cette remontée des prix de l'immobilier, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un rattrapage du marché.
Mais vous voyez, ça veut dire qu'effectivement, il faut au moins 15 ans pour rattraper des effets négatifs d'un phénomène de l'immobilier. Les cycles immobiliers sont des cycles avec une très forte inertie. Le marché a du mal à digérer parce que le logement,
il est immobile.
Alors la crise a eu lieu en 2008 et c'est seulement à partir de 2016 que les prix en Espagne ont recommencé à augmenter.
Mais à mon avis, c'est surtout sur l'existant, assez bizarre. Bizarrement, ce que j'ai vu, c'est que le marché retrouvait de la vigueur sur l'existant et pas sur les productions neuves qui sont mal localisées, périphériques, etc.
C'est ce qu'on disait, vous voyez, quand on parle de marché immobilier, on parle de plusieurs choses en fait. On parle à la fois du marché locatif, on peut parler à la fois du marché immobilier, du neuf, de l'ancien, des investisseurs, des ménages occupants. En fait, c'est tellement disparate et ça a énormément de dimensions, qu'on entend toujours parler de... C'est la crise immobilière ou c'est la crise sur les marchés. Mais de quoi parlons-nous? C'est toujours ça qu'il faut se poser comme question.
Et en l'occurrence, dans le cas de l'Espagne, pour vous, il n'y a rien d'inquiétant. C'est un rattrapage du marché. Vous diriez qu'aujourd'hui, c'est une croissance qui est davantage indexée sur l'activité économique, cette croissance des prix.
Je ne me prononcerai pas sur l'Espagne. Je pourrais plutôt me prononcer sur l'Allemagne, mais pas sur l'Espagne. Je ne sais pas.
L'Espagne, comme tous les pays, le régime des taux bas vaut, surtout pour l'Espagne qui est dans la zone euro, le régime des taux bas vaut pour l'Espagne. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets à peu près partout. Hein. Donc ici, on a des conditions de crédit qui sont à la fois très favorables et puis une conjoncture économique, macroéconomique en Espagne qui s'est très largement amélioré, donc ça dégage un peu l'horizon macroéconomique et l'horizon des emprunteurs et derrière l'horizon des banques prêteuses. Donc effectivement, on est dans une situation qui repart sur des bases saines, sauf cette question des taux qui me paraît une question vraiment délicate.
Vous avez évoqué l'Allemagne, Ingrid Napischoulet. Je voudrais effectivement qu'on s'arrête un petit peu sur le cas de l'Allemagne, qui est un cas particulièrement intéressant. En l'occurrence, la ville de Berlin, notamment, a connu des hausses des prix de l'immobilier importants. Et alors, Berlin a pris la décision de geler les loyers. Est-ce que, selon vous, c'est une solution qui est intéressante, qui pourrait constituer éventuellement un modèle?
Alors c'est très complexe aussi ce qui se passe là-bas en ce moment, donc c'est très politique à la veille des élections municipales. Je me prononcerai peut-être pas sur ça. Ce qu'on peut voir quand même à Berlin, c'est une augmentation assez importante des prix, notamment des loyers. Encore une fois, est-ce qu'on dit, on parle du marché locatif ou du marché d'accession? Mais également à Berlin, on a vu un phénomène spéculatif très important sur les prix des logements. Et avec l'arrivée d'investisseurs qui achètent des immeubles, donc entiers, qui les rénovent, qui font monter les loyers.
Et l'idée justement en gelant les loyers, c'est de mettre fin à cette spéculation pour qu'ils deviennent moins intéressants d'acheter des logements pour les mettre en location?
C'est un peu l'idée.
Oui. Et alors justement, sur cette idée de geler les loyers à Paris, l'encadrement des loyers est entré en vigueur en juillet dernier, réentré en vigueur, peut-on dire. Est-ce que c'est une mesure suffisante d'encadrer les loyers, une mesure intéressante pour vous, Didier Cornuel, ou est-ce qu'il faudrait aller carrément vers un gel des loyers comme à Berlin?
Pourquoi faire alors?
Non, d'abord, encore une fois, on a évoqué les loyers au tout début. Les loyers, l'évolution de l'indice du prix des loyers est plat. Alors, il y a, je vais le dire directement, il y a un biais parisien. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance, surtout les commentateurs et les médias, à voir le système du logement en France au travers du biais parisien et Paris intramuros. Or, Paris n'est pas un marché. C'est une partie d'un marché plus vaste qui est le marché de l'agglomération parisienne. Si on regarde l'évolution des prix dans l'agglomération parisienne, elle n'est pas très sensiblement supérieure à celle des prix des logements en province.
Non, mais ça...
Et si on et du temps où on avait un indice des loyers de la région parisienne, je ne sais pas pourquoi l'INSEE ne le produit plus, les évolutions de loyers de la région parisienne étaient semblables, parallèles à l'évolution des loyers de l'ensemble de la France. Donc, alors après, j'ai bien compris qu'il y a une instance régulatrice à Paris qui s'appelle la municipalité parisienne. Cette instance de Paris n'est pas un niveau pertinent pour la définition d'une politique de logement. Je ne comprends pas que ça existe encore.
On peut parler de Paris comme d'autres grandes métropoles, mais en l'occurrence...
Non, on parle de ville. On ne parle pas de métropole, on parle de ville, c'est-à-dire on parle bien de Paris intramuros et oui, de régulation des loyers à Paris intramuros.
Oui, mais ma question est plus large que ça. Est-ce que si la hausse des prix du logement continue, ça pourrait entraîner une hausse des prix du loyer? Et dans ce cas-là, est-ce qu'une mesure d'encadrement serait pertinente?
Non, c'est indépendant. C'est complètement déconnecté entre la hausse des prix et la hausse des loyers. Voilà,
en l'occurrence, c'est le cas en ce moment, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Est-ce que c'est forcément systématique?
Ah oui, bien sûr. C'est un mécanisme économique standard qui vaut partout. Les prix sont déterminés par les loyers et non pas l'inverse.
Alors, moi, je dirais que les prix ne sont pas déterminés par les loyers, c'est le numérateur, mais ils sont déterminés par les taux d'intérêt
aussi,
qui sont dénominateurs, principalement, puisque les loyers ne bougent pas.
Et alors, pour savoir si on assiste à cette formation d'une bulle, s'il faut savoir si, pour savoir s'il faut peut-être redouter justement l'éclatement d'une bulle immobilière qui se formerait actuellement, il faudrait déjà être capable d'identifier cette bulle. Or, c'est quelque chose de particulièrement peu aisé. Quels sont les signes annonciateurs sur lesquels on peut s'appuyer, Didier Cornuel?
Ah ben quand la bulle, c'est quand on n'a pas d'autre explication en réalité, il faut être honnête. C'est quand on sait pas, c'est ce qui s'est produit dans les années 80, on savait pas trop expliquer la situation. Pour moi, il y a des facteurs économiques qui expliquent l'évolution de ce cycle des années 85-95, qui sont aussi des facteurs macroéconomiques d'ailleurs. Et la même chose se produit actuellement. Pour l'essentiel des commentateurs, effectivement, la liaison est incompréhensible entre les prix et les loyers. Mais pour l'économiste, Ingrid Napi vient de le rappeler, le loyer et le taux d'intérêt sont des éléments tout à fait suffisants pour expliquer l'évolution.
Oui, mais ce qui va dépendre, ce qu'on appelle une bulle spéculative, c'est la spéculation. Et donc ça, quand même, ça a été étudié par des auteurs économiques, dont Keynes, c'est comment les agents économiques, notamment les investisseurs, agissent sur le marché. Est-ce qu'ils agissent de manière rationnelle, en prenant en compte toutes les informations, ou est-ce qu'ils agissent comme des moutons de panurge, en s'imitant les uns les autres, avec une opacité de l'information? Il faut bien voir, il y a cette opacité de l'information qui fait qu'on n'est pas sur des mécanismes classiques de cycle immobilier, qui peuvent exister, hein. Mais en l'occurrence, dans certains cas particuliers, opacité de l'information, nécessité d'aller très vite. Il y a en fait très peu d'offres de biens. Donc, il y a beaucoup de demandeurs, il y a très peu d'offres. Donc, il faut tout de suite avoir le deal. Et dans ces cas-là, on va au plus offrant. Et comme il faut... aujourd'hui, on a des raisonnements de très court terme qui sont liés tout simplement à l'économie internationale, qui est une économie de court terme. On a des mécanismes automatiques de spéculation, même si c'est pas intentionnel, on est bien d'accord. Mais en plus, les rendements locatifs étant de plus en plus bas à cause des taux d'intérêt, eh bien, il faut bien se rattraper sur quelque chose. Et on se rattrape sur ce qu'on appelle la plus-value.
On observe cette montée du risque, Didier Cornuel?
Oui, est-ce que je voudrais revenir sur cette question de la spéculation? Il faut savoir que l'essentiel des acquéreurs de logements, c'est des particuliers. Et l'essentiel de ces acquisitions sont faites des gens qui cherchent à se loger. Et quand ils achètent un logement, ils cherchent d'abord à ce qui corresponde à leurs besoins, d'utilisateurs, de consommateurs. comme s'ils étaient des locataires. La perspective d'une valorisation, même d'un maintien, je pense que même la plupart des particuliers, alors, ne l'ont pas.
Sauf à Paris.
Ou
sauf...
Alors,
mais voilà, donc y a pas, bien, on parle y a, bien de la hausse des prix.
On parle d'un biais spécifique, qui est toujours le biais parisien, et une entrée spécifique
qui
sont les investisseurs, je dirais, professionnels, c'est-à-dire les groupes financiers qui peuvent investir dans l'immobilier.
Mais pas que.
Mais c'est une minorité, parce que le parc, la structure du parc ne s'y prête pas. Parce que les logements, pour investir dans l'immobilier de manière significative, il faut acheter un immeuble entier. Or ça existe pratiquement que dans le neuf.
Enfin, les prix des anciens logements anciens, c'est bien des logements individuels, hein. C'est pas des immeubles. Là, on parle
oui,
bien
non,
de logements.
Oui, non, non, mais c'est, et donc c'est pas des investisseurs, c'est pas les grands groupes de financement qui achètent des logements à l'unité.
Ça pose tout de même la question de la capacité de ce marché, comme d'autres marchés, à s'auto-réguler ou, au contraire, de la nécessité aujourd'hui pour l'État d'intervenir davantage.
Mais c'est bien ce qui se passe à Berlin, justement. Mm. Et là, ce sont les municipalités, la municipalité qui prend des décisions face à ce genre de comportement.
Et alors, qu'est-ce que les grands cycles de spéculation immobilière dans l'histoire peuvent éventuellement nous apprendre, justement, de ce fonctionnement des bulles immobilières et de la capacité à peut-être les anticiper, Didier Cornuel?
Il faut dire qu'on a découvert ou on a redécouvert les cycles immobiliers depuis le milieu des années 80. En fait, pendant les Trente Glorieuses, c'est-à-dire la période l'idée même de cycle immobilier n'existait pas. Il n'y avait pas vraiment de marché d'acquisition. Donc c'était un peu le trou noir. Donc, et ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que ces cycles immobiliers, les deux derniers, ont été les deux occasionné deux récessions macroéconomiques. Donc on est très largement maintenant dépendant de ces évolutions immobilières de marché immobilier pour sur l'impact de l'activité économique générale.
Ingrid Napi-Choulet.
Oui, je voulais juste retourner sur le terme spéculatif. Ça peut faire très peur, mais si on regarde ce qui s'est passé dans la bulle immobilière des années 80 et donc qui a éclaté en 91, on avait justement une déconnexion. On avait des immeubles qui étaient vides et qui étaient achetés tout simplement sur une valorisation. Donc, et ces immeubles vides, on les appelle même en anglais speculative building. Tout est dit en soi. Donc, on peut acheter des immeubles qui sont vides, qui sont pas rentables. Il n'y a pas de loyer. Donc, pour d'autres valeurs, pour d'autres raisons.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot, peut-être, sur ce risque. On a dit qu'il était particulièrement difficile à évaluer. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur l'évolution qu'on peut en attendre et peut-être sur les réponses à y apporter, Didier Cornuel?
Personnellement, je n'investirai pas dans l'immobilier. Je le dis clairement. Il faut s'attendre.
Un conseil à nos auditeurs la part de Didier Cornuel.
Non seulement c'est un conseil, mais quand j'entends que les pouvoirs publics veulent faire un choc d'offre pour faire baisser les prix, c'est bien pour que les ménages subissent une moins-value. Enfin, si le français a un sens et si l'économie a un sens, c'est bien ça que ça veut dire.
Vous partagez cet avis, Ingrid Napi-Choulet?
Je pense que si on raisonne à court terme, oui. Si on raisonne à long terme, non.
Alors expliquez-nous un peu plus.
En effet, la valeur va varier certainement d'ici une dizaine d'années, mais normalement un investissement immobilier pour compte propre, donc pour occupation personnelle, c'est sur un investissement à long terme. On revient sur la gestion patrimoniale de l'immobilier. Le risque de bulle spéculative, c'est quand on est sur une financiarisation excessive, donc on raisonne sur des durées très courtes. Là, en effet, on se prend de plein fouet, la bulle éclate.
Et donc vous appelez à un retour de cette gestion à long terme?
Forcément, à un moment donné, on ne pourra pas faire autrement.
Et c'est l'heure du journal de l'Écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Une véritable révolution, c'est ainsi qu'Angela Merkel a décrit tout à l'heure les défis de l'industrie automobile allemande. Elle ouvrait un salon de l'automobile de Francfort en pleine désaffection par les constructeurs.
Et oui, pas moins de 12 grandes marques mondiales absentes cette année, parmi lesquelles Fiat, Chrysler, Nissan, Toyota, le luxe aussi comme Ferrari. Une première pour Francfort, le reflet bien sûr d'un marché mondial de plus en plus tendu, voire lui aussi morose cette année, avec une baisse baisse de 5% des ventes au premier semestre. Les entreprises hésitent face au coût des stands. Il y a aussi l'incertitude liée au ralentissement de l'électrique en Chine, la guerre commerciale et les menaces de Trump sur l'automobile européenne. Et puis l'incertitude liée aux défis à venir herculéens, a dit Angela Merkel, particulièrement en Europe, celui de la confiance après le Dieselgate, celui du virage électrique et les nouvelles normes qui entrent en vigueur en 2020 et qui obligent quasiment à une électrification forcée des constructeurs. Écoutez ce qu'en dit Tommaso Pardi, il est co-directeur du GIS Gerpisa à l'ENS Cachan et spécialiste du marché automobile.
Les ventes européennes sont à moins 3% depuis le début de l'année, il y a moins 8% en juin. On sent qu'il y a beaucoup d'incertitudes et en même temps il y a beaucoup de pression qui sont liées notamment aux nouvelles régulations environnementales. Pour l'Europe, ça c'est extrêmement important, suite au Dieselgate et le fait qu'il y avait déjà une barre des 95 grammes de CO2 à attendre pour 2021. Il est clair que les constructeurs sont en train de dépenser énormément d'argent à la fois pour homologuer leurs véhicules essence et diesel, ça devient de plus en plus cher et de plus en plus difficile, et pour se préparer à vendre des véhicules électriques puisqu'ils n'ont pas d'autre choix pour passer les caps 2021. On estime aujourd'hui que à l'état actuel des choses, en termes d'amendes, ça coûterait 35 milliards d'euros à l'industrie automobile européenne s'ils n'arrivent pas à réduire leurs émissions de CO2 d'ici 2 ans. C'est plus de la totalité des profits enregistrés à l'année dernière. Et même s'ils y arrivent, alors les coûts sont très significatifs, on l'estime à 15 milliards d'euros, mais en fait je pense que c'est largement sous-estimé. Donc oui, il y a une énorme pression sur les constructeurs et beaucoup d'incertitudes. Donc ça, sans doute, ça explique un peu la morosité de cette salon de Francfort.
Et dans ce contexte, l'automobile allemande est particulièrement touchée, Xavier.
Alors plus touchée peut-être, avec un recul de la production de 11% les 8 premiers mois de l'année, 38% de perte de bénéfices quand c'est 18% au niveau mondial. Plus en difficulté face aux défis électriques, c'est moins sûr. Tout le monde y va en ordre dispersé d'une part. Et puis les trois principaux constructeurs allemands, Volkswagen, Porsche, BMW, veulent faire de Francfort la vitrine de leurs ambition zéro émission avec de nouveaux modèles jusqu'à 500 km et Volkswagen a aussi annoncé 30 milliards d'euros d'investissement dans l'électrique, un sujet sur lequel vous reviendrez Tiffaine plus en détail lundi prochain.
Absolument. On passe au bref. À Francfort, toujours, la BCE prend une décision attendue par les banques en baissant ses taux directeurs et des mesures pour soutenir la zone euro.
Oui, avec deux mesures principales. Un, la réduction des taux directeurs à moins 0,5% dans le but de limiter les sommes que les banques déposent à la Banque centrale en leur faisant payer des intérêts. C'est plus de 7 milliards en 2018 pour les banques, notamment françaises et allemandes, qui sont donc sous pression. Deuxième mesure, c'est la reprise d'une politique controversée dite du quantitative easing, qui consiste à faire racheter massivement par la BCE des dettes d'État ou des titres boursiers. Elle reprendra à partir du 1er novembre à raison de 20 milliards d'euros par mois. C'est moins que ce qu'espéraient ou ce qu'estimaient les analystes. Mais en tout cas, l'objectif reste le même, inflation 2%.
Décision historique, cette fois en Californie, elle pourrait remettre en cause le modèle Uber.
Oui, c'est un texte là législatif qui obligerait Uber et puis Lyft, un de ses concurrents, à requalifier leurs chauffeurs en employés à la place de chauffeurs indépendants. Sujet mondial avec aux États-Unis le gain d'une protection sociale et santé pour les employés et vrai coup porté au modèle Uber fondé sur un contrat commercial et non un contrat de travail. La bataille ne fait cependant que commencer. Un texte approuvé à 29 voix contre 11. Uber et Lyft ont réagi de manière assez amère en Union européenne. C'est la justice qui s'en était mêlée. Vous vous rappelez, en janvier, la Cour d'appel de Paris avait requalifié le contrat d'un chauffeur VTC en contrat de travail.
Et on reste aux États-Unis pour finir. Trump reporte une taxe sur les importations chinoises. Est-ce que c'est un signe de détente?
Bon, en tout cas, l'augmentation de taxes de 25 à 30% sur 250 milliards de dollars de produits chinois est bien repoussée du 1er au 15 octobre. C'est un signe de bonne volonté, dit la Maison Blanche, pour laisser un répit pendant ces négociations qui interviendront aussi en octobre. Mais ça intervient aussi après un geste de Pékin qui exempte de taxes 16 catégories de produits américains. Trump épargne aussi par là les célébrations des 70 ans de la Chine communiste le 1er octobre.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
Gotta change around here. Gotta change around here. Can't go on this way. Things gotta change around here. Say it loud, say it clear. Things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight.
On se quitte avec la chanteuse américaine Mavis Staples et son titre sorti cette année, Change. Merci beaucoup Didier Cornuel et Ingrid Napi-Choulet de nous avoir aidé à comprendre les arcanes des bulles spéculatives. Demain, le droit de la concurrence américain viendra-t-il à bout des GAFA? C'est la question que l'on se posera en compagnie de nos trois invités. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.